réplique « Qu'est-ce que le macronisme ?» avec Brice Couturier et Laurent Geoffrin. En 2017, Brice Couturier, qui est l'une des voix de France Culture, a fait paraître un livre intitulé « Macron, un président philosophe ». À la rentrée de cette année, Laurent Geoffrin, l'ancien directeur de Libération, parti vers de nouvelles aventures, publiait un recueil de chroniques sous ce titre sans équivoque « L'anti-Macron ». Leur désaccord, comme on le voit, est perceptible d'entrée de jeu. Mais avant d'en venir à l'expression de ce désaccord, il faut s'entendre sur le sujet dont on parle. Car ce sujet est insaisissable. Il semble même prendre un malin plaisir à ne pas se laisser enfermer dans une définition. Virtuose du « en même temps », il a de surcroît changé sous la pression des événements. Son discours actuel n'est pas celui qu'il tenait pendant la campagne électorale, et s'il n'est pas devenu Horesco Referens conservateur, sa politique a connu, dans des domaines cruciaux, un infléchissement spectaculaire. D'où une question préjudicielle, qu'est-ce que le macronisme, Brice Couturier ?
Écoutez, dans mon livre, j'avais essayé de le définir de la manière suivante. D'une part, c'est un « radical centrism », comme on dit chez les anglo-saxons, ou plutôt chez les Américains, un peu comme Obama d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas... L'idée que de la recomposition politique et de l'explosion du système partisan n'était pas la finalité, contrairement à ce que disent les journalistes qui voient assez loin. Il ne s'agissait pas de faire turbuler le système pour lui-même. Il s'agissait de trouver des convergences possibles entre des gens de bonne volonté, ce que les Américains appellent la « cafeteria politics », c'est rassembler les bonnes volontés et essayer de les faire concourir à la recherche des bonnes idées, en se déprenant des automatismes idéologiques, des idées toutes faites, des clivages partisans traditionnels, quand on constate que ces clivages partisans traditionnels, en fait, ne recoupent plus les réalités de l'heure, que les clivages sont ailleurs qu'entre le clivage droite-gauche qui me paraît totalement démodé et dépassé. Par ailleurs, il s'agit d'un libéralisme de gauche que je définissais de la manière suivante. D'une part, comme tout libéral, le Macron ne croit pas qu'il y a une société idéale, une destination finale vers laquelle il faudrait nécessairement entraîner le reste de la société. Ça, c'est le rêve des socialistes. Il n'y a pas de vie bonne non plus qu'on devrait définir a priori pour les individus. Ils sont libres de la choisir. Mais ce qui est plus particulier au libéralisme de gauche, c'est qu'il s'agit de donner les moyens concrets d'action nécessaires aux individus afin qu'ils réalisent les buts qu'ils se fixent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il s'agit bien évidemment ici de social-démocratie, de fournir les moyens aux individus des fins qu'ils veulent poursuivre. Troisièmement, il s'agit non pas de l'égalité des situations concrètes, elle est impossible, on ne l'a jamais connue nulle part, mais il s'agit de l'équité, un principe d'équité, c'est-à-dire que l'égalité des chances au départ doit être aussi réelle que possible et que surtout les personnes disposent réellement des moyens d'action qui leur sont nécessaires pour poursuivre ces fameuses fins qu'ils ont envie de poursuivre. Et enfin, ça, c'est pas propre au libéralisme de gauche, c'est propre au libéralisme tout court. C'est l'idée que la société est conflictuelle, qu'il ne faut pas se faire d'illusions, qu'il y a effectivement des intérêts qui divergent, il y a des conceptions de la vie bonne qui divergent, et que par conséquent, il faut construire, et ça nous ramène au radical centrism, il faut construire des coalitions, il faut construire sur certains sujets, sur les sujets pris un par un, il faut arriver à des compromis qui sont toujours bâtards, qu'il n'y a pas de solution idéale, comme le croient les socialistes, mais qu'il y a des solutions qui sont moins mauvaises que d'autres. Et ça aussi, c'est une des sagesses du libéralisme que de le penser.
Laurent Geoffrin.
Alors, ma définition recoupe en partie celle de Couturier, mais je suis en désaccord sur tout le reste. Le macronisme, c'est effectivement le gouvernement des jeunes élites libérales. Il suffit de voir la composition du personnel proche du président. Toujours des jeunes diplômés avec une expérience de la vie un peu rapide et des têtes brillantes, mais largement coupées souvent des réalités sociales, il faut bien le dire. Et puis, quand vous voyez l'électorat, c'est les gens qui sont bien dans la mondialisation, qui sont bien dans le capitalisme actuel, et qui votent Macron. Hein. Il y en a une partie qui vient de la droite, d'autres de la gauche, mais ou du centre. Mais c'est ça qui les définit le mieux. Et donc, vous avez un gouvernement éclairé, avec un malentendu initial, parce que ce gouvernement-là prétendait prendre à gauche et à droite ce qu'il y avait de bien pour en faire une nouvelle synthèse, si vous voulez, et on s'est aperçu extrêmement vite qu'en fait il s'agissait surtout d'un pouvoir de centre droit et où la gauche disparaissait progressivement. Et d'ailleurs on le sent bien puisqu'il y a beaucoup de députés macroniens qui ont été élus sur cette idée-là du dépassement du clivage droite-gauche et qui reviennent maintenant vers la gauche. Donc et d'ailleurs l'idée que le clivage droite-gauche a disparu est un de ces clichés qu'on entend depuis des décennies, mais qui ne correspond à rien de réel. On voit bien que sur chacun des sujets pratiquement il y avait une droite et une gauche au sein même de la Macronie.
Alors, simplement...
Et en général.
Pardon.
Et donc, je termine juste.
Oui,
le problème,
oui,
c'est que la doctrine libérale, elle est dépassée maintenant. Elle est dépassée. C'est-à-dire qu'elle a conduit à un capitalisme très dur, débridé, qui met en cause les acquis, d'une part, qui génère une inquiétude identitaire par une ouverture mal maîtrisée, au fond. Et donc, vous avez un système... qui crée de l'inégalité et du conflit en permanence. Et donc, on ne peut plus appliquer cette doctrine-là. Il faut trouver autre chose. Et c'est ça le problème du macronisme, d'ailleurs. C'est qu'il cherche autre chose. Mais il n'a pas trouvé, parce que son ADN, comme on dit aujourd'hui, c'est quand même le libéralisme. On le voit dans les réformes qui ont été faites. Et on le voit dans le langage, quand on dit... on dépense un pognon de dingue pour le social, bon, c'est un cliché libéral.
Attendez, Laurent Geoffrin, c'est un cliché libéral, mais des socialistes comme Henri Weber le reconnaissent. C'est évidemment une expression peut-être pas satisfaisante, mais la France est le pays au monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques et de dépenses sociales. Ça, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, ça continue sous Macron. C'est pour ça qu'il m'est difficile, moi, de penser que nous sommes plongés dans le libéralisme, et a fortiori dans l'hyperlibéralisme, étant donné le niveau des dépenses publiques et des dépenses sociales en France. C'est un niveau inégalé, même en Scandinavie. Laurent Geoffrin, Brice Couturier.
Effectivement, pardon, vas-y, Laurent. Oui, enfin, moi, je vais citer les chiffres, hein, parce que je les ai sous les yeux. La dépense sociale en France, c'est 32% du PIB. On est loin devant la Finlande, qui est le plus généreux des régimes après le nôtre, avec 29,6%, le Danemark, 29,2%, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Norvège et la Suède ne sont qu'à 25%. Donc, il faut arrêter de nous dire que c'est un régime antisocial. C'est le régime le plus social.
J'ai pas dit que la France était un pays libéral. C'est un pays républicain, largement étatique. On le sait bien. C'est une vieille tradition de droite et de gauche pour le coup. Donc c'était pas mon propos. Moi, je parlais de la doctrine qui anime Macron. Bon, c'est autre chose. Lui, il trouve qu'on dépense beaucoup trop. Il le dit lui-même, parce qu'il dit que c'est un pognon de dingue. Moi, je pense que ces dépenses-là sont nécessaires et que ce sont des acquis sociaux qu'on essaye de remettre en cause. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas parvenu. Encore que si on regarde les chiffres de l'inégalité en France, il se réduisait progressivement sous le quinquennat précédent et la tendance s'est inversée sous Macron. Quand je dis que le libéralisme est dépassé, je constate que dans cette crise-là extrêmement grave qui est née de la pandémie, ce sont pas les méthodes libérales qu'on emploie. Hein. Vous avez remarqué ça.
Oui, mais ce qui veut dire...
On fait appel à la solidarité, on fait appel à l'État, on dépense encore plus, presque sans compter. D'ailleurs, on se demande si c'est pas un peu irresponsable à certains égards. Mais en tout cas, pour lutter contre la crise la plus récente que nous connaissions, et la plus moderne, finalement, on n'emploie pas du tout des méthodes libérales. On a même abandonné le discours libéral. On était obligé de se ranger à une tradition plutôt social-démocrate, là, pour le coup.
Oui, mais alors c'est intéressant ce que vous dites. Dans votre livre, Laurent Geoffrin, vous citez Harold Macmillan, un ancien Premier ministre britannique.
Oui.
On lui demandait quelle était la principale difficulté du gouvernement. Il répondait « Les événements, mon ami, les événements ». Et là, je m'adresse aussi à Brice Couturier. Vous écrivez, Brice Couturier, que Macron est un président philosophe, la tentation des philosophes, c'est le système. C'est d'enfermer la réalité dans une totalité et quelquefois de préférer le système à la réalité elle-même quand elle le perturbe, quand elle le dérange, quand elle le contredit. Là, il me semble que l'intelligence de Macron, c'est plutôt l'intelligence de l'adaptabilité, parce qu'il est vrai que face à cette crise imprévisible, il a changé de recette, il a changé de méthode, et là encore, on retrouve quand même une singularité française. Donc il s'inscrit dans une longue tradition, puisque le chômage partiel, c'était 84% du salaire, c'est-à-dire un taux beaucoup plus élevé que dans tous les autres pays européens, Allemagne comprise. Donc est-ce que effectivement Macron, sous la pression des événements, ne serait pas devenu de gauche et social-démocrate, Brice Couturier?
Il l'a toujours été. Il fallait une mauvaise foi confondante pour croire que, sous prétexte qu'il a été élu par des élites sociales et intellectuelles comme Barack Obama, en gros, ça fait de lui le président des riches. Je voudrais juste répondre à Laurent Geoffrin sur le fait que le découpage droite-gauche était inadapté face au clivage apparu au cours des dernières années. Les vrais clivages, c'est le clivage entre les souverainistes et les européistes, entre les partisans de la société multiculturelle et puis les républicains qui n'en veulent pas, les partisans de l'élargissement continuel des droits individuels que vous dénoncez souvent, Alain Finkielkraut, dans vos écrits, et puis ceux qui sont inquiets de voir le lien social, la collectivité nationale progressivement s'éroder. Les importateurs aujourd'hui de la politique des identités américaines face aux défenseurs de la laïcité, on voit bien que c'est un sujet qui traverse largement la droite comme la gauche, les écologistes partisans de la décroissance face aux progressistes, j'espère qu'on y viendra parce que ça me paraît un des problèmes fondamentaux qu'aujourd'hui rencontre l'idéologie macronienne qui est véritablement écartelée entre ces deux pôles, et puis surtout le vrai clivage d'aujourd'hui, c'est celui qui existe entre les ethnopopulistes à la Orban, Kaczynski, Trump, et puis ceux qui tentent de s'y opposer. Et à mes yeux, Macron est celui qui s'y oppose le plus efficacement en Europe. Mais pour répondre à votre question sur Macron, idéologue débordé par les événements, en réalité, il a toujours veillé à articuler l'exercice du pouvoir et puis la réflexion théorique sur le sens de son action. Il a toujours eu besoin de se projeter sur un horizon de sens. Et il l'a dit dans ses fameuses interviews qu'il donnait au 1. Or, aujourd'hui, effectivement, la France est face à une crise qui fait que le besoin de protection l'emporte sur le besoin d'émancipation. J'espère que ce deuxième ne sera pas perdu de vue et que, effectivement, on est dans un pays où l'État est notre, comme on dit, assureur de dernier recours. Donc, comme a dit Macron, quoi qu'il en coûte, c'est 230 milliards d'euros supplémentaires de dette publique.
Il y a un clivage qu'Emmanuel Macron a voulu imposer pendant toute sa campagne électorale, c'est le clivage progressiste-conservateur. Vraiment, les conservateurs, c'est pas la lie de la terre, mais enfin, c'était leur grand repoussoir de la Macronie. Alors, ce qui est très intéressant, puisque la gauche, par définition, se veut progressiste aujourd'hui. Alors là, j'ai une double question. En quoi ces progressismes diffèrent? Et surtout, adhérez-vous l'un et l'autre à cette opposition progressiste-conservateur? Laurent Geoffrin.
Moi, je peux démontrer que le clivage droite-gauche domine encore. C'est pas le seul. Ça n'a jamais été le seul, d'ailleurs. À chaque fois, la gauche s'est divisée sur l'Europe, par exemple, ou sur les rapports à l'Union soviétique, dans le temps, etc. Il y a toujours eu des divisions internes à chacun des camps. Mais si on prend la question sociale, il est clair qu'il y a une droite et une gauche, chacun ayant ses exagérations, ou une certaine justesse parfois. Mais enfin, grosso modo, la droite considère qu'on en fait trop pour le social, et la gauche pas assez. Donc ça fait quand même une opposition importante. C'est quand même la vie quotidienne des gens, elle est quand même largement déterminée par cette opposition-là. Sur l'écologie, on dit l'écologie transcende tout. Non, c'est pas vrai. La plupart des climato-sceptiques, ils sont de droite. Et souvent, les gens de droite disent, mais attends, on va pas sacrifier l'économie à l'écologie. Les gens de gauche, on dit, mais oui, c'est important quand même, parce que, vous comprenez, il faut trouver un mode de vie différent. Et dans la plupart des pays, les écologistes, ils sont à gauche. On le voit bien aux États-Unis, par exemple. la sensibilité écologique a soutenu Biden à fond et était très hostile à Trump. Et oui, si vous retrouvez la même chose dans la plupart des pays, en France, c'est pareil. Les écologistes, ils sont toujours alliés avec la gauche en France.
Oui, c'est vrai. Mais Claude Allègre était climato-sceptique et il était de gauche. Mais peut-être est-ce une exception. Alors simplement,
il y a
la gauche...
Il y a des femmes arabes aussi, c'est pas...
Oui,
c'est
gentil pour Claude Allègre. Mais la gauche est aussi divisée sur un certain nombre de thèmes capitaux,
oui,
et cette division ne se voit pas trop, parce qu'une certaine gauche qui se veut progressiste préfère l'étouffer. La question de la GPA et de la PMA divise la gauche. Sylviane Agacinski est très opposée aux nouvelles technologies, elle est de gauche. Personne ne peut
le contester. Oui, mais la résultante est favorable à ces changements, on le voit bien.
Bon, peut-être.
C'est la gauche qui fait le mariage pour tous, c'est la gauche
qui... Oui, et la laïcité, et la question de la laïcité ouverte, la laïcité républicaine, c'est encore Elisabeth Badinter contre une autre partie de la gauche. Mais
si vous avez raison, bien sûr, il y a des divisions internes à la gauche.
Voilà.
Et sur certains points, on peut trouver des passerelles droite-gauche. Sur la laïcité, on suppose qu'une version très très sourcilleuse de la laïcité peut être adoptée aussi par des gens qui, en général, votent plutôt à droite.
Mais
ça n'a rien de nouveau. Ça ne remet pas en question cette distinction assez simple et commode entre droite et gauche. À l'époque du congrès de Tours dont on va fêter le centenaire, si je puis dire, il y a eu une fracture terrible entre les deux branches de la gauche, bien pire que celle d'aujourd'hui, puisque les uns voulaient supprimer la démocratie et faire une société totalement égalitaire, et les autres voulaient maintenir la liberté.
Mais alors,
c'était autrement important que le clivage sur la PMA ou sur de savoir s'il faut mettre un voile dans les salles de classe.
Mais c'était vrai. Mais c'est pas, cela dit, ces questions-là ne sont pas non plus accessoires. Mais Laurent Geoffrin, vous êtes progressiste, mais alors que pensez-vous de ce nouveau clivage progressiste-conservateur et surtout, adhérez-vous justement à cette mise en cause du conservatisme en soi? C'est-à-dire, peut-être êtes-vous progressiste en un autre sens que Macron, et vous venez de le dire, c'est un progressisme qui n'est pas libéral, qui est plus social-démocrate, etc. Mais êtes-vous d'accord quand même avec le macronisme pour penser que l'adversaire principal, c'est le conservateur?
Non, je ne suis pas d'accord. Ça dépend ce qu'on entend par conservateur. Si c'est un conservateur de droite, oui, moi, comme je suis de gauche, je suis contre la droite. Et donc, ça, c'est pas très étonnant. Mais par contre, il y a dans la gauche une volonté de conserver aussi. Quand vous avez toutes les réformes du Conseil national de la résistance, quand vous avez l'héritage du Front populaire, quand vous avez l'héritage, ou même l'héritage de la République en général, la gauche veut conserver. Elle a un discours, ou elle devrait avoir un discours, en tout cas c'est celui que j'essaye de tenir moi, sur l'identité française. Mais l'identité française, c'est pas seulement les racines chrétiennes, qui sont tout à fait respectables, et les 43 qui ont fait la France. C'est la République qui a donné à la nation son drapeau et sa devise. Moi, je suis pour conserver ces choses-là, évidemment. Je suis hostile, notamment, à tous ceux qui disent l'histoire de France n'a été qu'une succession de crimes dont il faudrait expier aujourd'hui la faute. Non, oui, il y a eu des crimes, bien sûr, il faut en parler, il faut être clair là-dessus. Mais il n'y a pas eu que des crimes, il y a eu aussi des moments formidables d'enthousiasme et même d'utopie d'ailleurs, mais qui font partie du patrimoine national. Moi, je suis pour conserver ce patrimoine-là, c'est-à-dire le patrimoine de 1848, celui de la Commune, celui du Front populaire, celui du Conseil national de la Résistance, celui du 10 mai 81, qui est une date importante à mes yeux, etc., etc. Donc là, de ce point de vue-là, je suis conservateur, je suis pas favorable à ce qu'on oublie le passé et qu'on nie les racines et qu'on se projette dans un monde sans aucune attache et sans aucune mémoire, pas du tout.
Alors il faudrait
une tradition républicaine en France qu'il faut préserver à tout prix.
Mais Jules Ferry allait plus loin que vous, le fondateur de l'école républicaine, puisqu'il voulait faire, comme l'a merveilleusement montré Mona Ozouf, de tous les Français des héritiers, et des héritiers aussi de l'histoire d'avant la Révolution. C'est-à-dire, France n'est pas née en 1789.
Je n'ai pas dit ça, j'ai cité les 43 et j'ai cité le catholicisme.
Enfin, oui, c'est tout à fait juste. Mais alors, je me tourne vers Brice Couturier, je me tourne, si j'ose dire, puisque nous sommes, selon l'expression consacrée qui n'est pas la même, guillemets, et qui n'est pas la mienne, en distanciel. Donc j'évoque l'image de Brice Couturier et je lui demande s'il est à l'aise dans cette opposition macronienne. Vous sentez-vous progressiste et anticonservateur, Brice Couturier ?
Moi, je me sens social-démocrate sur le plan de la politique sociale, je me sens libéral sur le plan politique et je me sens conservateur sur le plan culturel. Mais le problème, c'est qu'en France, nous n'avons François Huguenin a fait un très bon livre il y a quelques années qui s'appelle « Le conservatisme impossible », dans lequel il démontre qu'en fait, il n'y a jamais eu de parti conservateur en France. D'ailleurs, aucun parti ne porte ce label. Nous avons eu en France le parti du mouvement et le parti de la résistance. C'est ça m'amuse quand j'entends Laurent Geoffrin dire « lui, il est pour la conservation, à condition que ce soit la conservation du fameux mythe ». D'ailleurs, en réalité, quand on connaît l'histoire, du Conseil national de la résistance. Le parti de la résistance, le parti du mouvement, ça existe encore aujourd'hui. Le conservatisme, il existe dans les pays anglo-saxons. Il est possible que nous soyons en train de connaître effectivement une vague intellectuelle conservatrice et elle est assez riche sur le plan intellectuel, il faut le souligner. Mais les grands auteurs conservateurs, c'est Edmund Burke, c'est Michael Oakeshott. Nous n'avons pas de grands auteurs conservateurs en France. Ah, peut-être Chateaubriand, mais c'est un libéral conservateur. Pour moi, le conservatisme, c'est la définition qu'en donnait Michael Oakeshott, c'est une disposition à chérir le présent. Le conservateur est celui qui reconnaît les bienfaits de son époque et qui préfère, disait Oakeshott, le familier à l'inconnu. C'est-à-dire que le conservateur, c'est pas quelqu'un qui déteste le changement, mais qui veut que ce changement soit prudent, modeste, et que surtout, il ne se fixe pas des ambitions démesurées. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a, je le vois, un conservatisme, mais moi, je me reconnais plutôt dans le mouvement progressiste, à savoir celui qui se revendique clairement des Lumières. Et pour moi, aujourd'hui, le grand penseur de ce libéralisme progressiste, c'est Steven Pinker, avec son livre « Le triomphe des Lumières », qui explique pourquoi, finalement, le catastrophisme des écologistes, d'une partie de la gauche, qui veut nous faire croire que nous vivons une période épouvantable et que ça sera encore pire demain, c'est une idéologie trompeuse, parce qu'en fait, l'humanité ne s'est jamais aussi bien portée, malgré son nombre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui mangent à leur faim sur la surface de la planète, malgré tout ce qu'on nous a dit, que le malthusianisme est une idéologie stupide et que l'écologisme radical qui voudrait nous faire abandonner l'énergie nucléaire pour les moulins à vent des éoliennes est une idéologie stupide et régressive, alors que l'Asie est en plein mouvement et que nous risquons, nous, Européens, d'être absolument largués par cette histoire moderne, parce que précisément il y a des gens qui, au nom d'une espèce de partie de la résistance de gauche, c'est ça le paradoxe de notre histoire actuelle, voudrait nous faire rouler avec des comme certains écologistes en trottinette plutôt qu'en voiture. Vous voyez, c'est en cela que moi je me sens progressiste et que je pense qu'effectivement le macronisme est un progressisme.
Alors simplement, si les éoliennes étaient des moulins à vent, franchement, on pourrait les soutenir. Mais les éoliennes sont une catastrophe esthétique et un désastre écologique. Un désastre écologique, puisque les matières premières qui servent à les construire, comme pour les voitures électriques, eh bien, elles sont extraites dans des pays, et dans les pays où elles sont extraites, il y a une augmentation spectaculaire de la pollution et des maladies environnementales. Mais franchement, les éoliennes, c'est une erreur. Le problème, c'est qu'on aura le nucléaire et de plus en plus d'éoliennes. Mais moi, je voudrais intervenir ici très brièvement. Je crois en effet qu'il n'y a pas de tradition conservatrice en France. Sans doute d'ailleurs parce que le conservatisme a été, discrédité par la figure de Charles Maurras. Mais il faut réfléchir, et notamment Brice Couturier, ça devrait vous intéresser, à la pensée qui nous vient d'Europe centrale, à la richesse de la pensée d'Europe centrale. Miloš, Le Printemps de Prague, Karel Kosik, Milan Kundera et Kolakowski. Kolakowski qui dit pourquoi je suis conservateur, libéral et socialiste. Et quand il dit qu'il est conservateur, Là, je cite ta phrase, parce que quand même, elle est très intéressante. Le conservateur croit fermement que l'idée fixe de la philosophie des Lumières, à savoir que l'envie, la vanité, la cupidité et l'instinct d'agression ont toujours pour cause des institutions sociales défectueuses et disparaîtront lorsque ces institutions auront été réformées, n'est pas seulement tout à fait invraisemblable et contraire à l'expérience, mais extrêmement dangereuse. Comment toutes ces institutions ont-elles pu voir le jour si elles étaient totalement contraires à la nature profonde de l'homme? Nourrir l'espoir qu'on pourra institutionnaliser la fraternité, l'amour, l'altruisme, c'est préparer à coup sûr l'achèvement du despotisme. Et il savait de quoi il parlait. Par ailleurs, il était libéral parce que la concurrence est nécessaire, sinon les sociétés stagnent. Et il était socialiste parce que la redistribution, disait-il, ça n'a rien à voir avec le goulag. Eh ben, c'est un peu ça, si vous voulez, qu'on peut retenir de la pensée d'Europe centrale, et c'est ce type de conservatisme auquel on peut être attaché, mais je ne suis pas sûr que cet attachement soit très présent dans la vie politique française. Laurent Geoffrin.
Parce que on parlait de l'identité française tout à l'heure. Dans cette identité, il y a un héritage, on en a parlé, mais il y a aussi une promesse. Et c'est ça qui fait la tension de la vie politique et sociale française, c'est qu'il y a une promesse. Et cette promesse, elle est dans la devise nationale, et puis bon, c'est l'idée qu'on va instaurer progressivement, non pas une société idéale, non pas l'avenir radieux des communistes, pas du tout, mais simplement une république humaniste, ou plus humaine, plus équitable, plus protectrice. Et cette promesse-là, on n'y est pas. Voilà. Probablement, on n'y sera jamais, d'ailleurs, parce que moi, j'aime bien la phrase d'un socialiste de la fin du 19e siècle, qui s'appelait Bernstein, qui disait, pour répondre à Lénine et pour répondre aux socialistes dogmatiques, il disait, mais vous savez, le but n'est rien, le mouvement est tout. Et c'est ça, la philosophie social-démocrate, c'est que on progresse, on progresse progressivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand soir. Il y a des petits matins difficiles, c'est compliqué, on fait des compromis, etc. Mais on progresse. Et d'ailleurs, Couturier parlait du livre de Pinker. Moi aussi, je suis un fan de Pinker. Parce qu'il démontre, statistiques à l'appui, exemples à l'appui, et de manière extrêmement convaincante, que les sociétés contemporaines continuent de progresser, même si elles n'en sont pas conscientes. Mais si on prend tous les indicateurs, que ce soit les indicateurs matériels ou les indicateurs moraux, on s'aperçoit que la société d'aujourd'hui est quand même, à la fin des fins, malgré toutes ses tares, meilleure que ce qu'elle était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc. etc.
Donc, effectivement...
Et donc, le progressisme existe toujours, en tout cas dans les faits, même s'il est souvent moqué ou ringardisé à certains égards dans le discours public, il existe. Et toute notre démarche... moi, je fais partie de la gauche réformiste, de la gauche social-démocrate que j'essaye de renouveler. Contribuer, renouveler. Toute notre démarche, c'est de dire, mais vous savez, le progrès reste possible. On n'est pas obligé de rester dans le statu quo. Certes, il faut préserver un héritage précieux, mais on ne fait pas que ça. Et on fait aussi, on essaye de se porter là où il y a manifestement des choses qui ne vont pas, des injustices, des oppressions, des discriminations. On est sensible à ça. C'est pas un ronron progressiste, ce sont des vraies questions, c'est une demande sociale.
Visiblement, le seul à ne pas être pinkerien, c'est moi, et je cherche vainement à donner droit de cité à la nostalgie, au ridicule c'était mieux avant, mais il me semble vraiment que l'école républicaine c'était mieux que l'école soi-disant démocratique, et que le monde s'en l'est dit à grande vitesse. Mais c'est un autre problème, et puis je ne suis pas l'invité. Je vais donc, moi, simplement vous demander comment vous réagissez l'un et l'autre à cette pétition parue sur Mediapart. Monsieur le Président, nous n'avons pas voté pour ça. Je disais en commençant que Macron a été amené à changer sous la pression des événements. Et alors un certain nombre d'intellectuels et de personnalités du théâtre, comme Hélène Cixous, Patrick Chamoiseau, Ariane Mouchkine, Jean-Pierre Mignard, Philippe Mérieux, Olivier Mongin, et également, ne l'oublions pas, Lilian Thuram, et Cédric Villani, disent que les projets de loi dits sécurité globale et séparatisme font en effet reculer les libertés d'information, d'opinion, de croyance, d'éducation, d'association, de manifestation et de contestation. Et on est en train d'installer ce dont l'extrême droite néo-fasciste rêve, un État autoritaire où l'État de droit devient un État de police, criminalisant les mobilisations de la société et certaines revendications populaires. C'est pourquoi nous vous demandons, avec force et gravité, d'interrompre cette course à l'abîme. Qu'en pensez-vous, Brice Couturier ?
Écoutez, le problème que rencontre Macron, c'est celui que rencontrent la plupart des chefs d'État de nos démocraties libérales en crise. C'est celui d'une polarisation extravagante du débat politique, sous l'effet, on le sait, des médias sociaux qui font qu'on est enfermé chacun dans sa bulle cognitive et que donc on a la tentation de se radicaliser chacun dans sa bulle. Donc en France, on a ce problème d'avoir d'un côté des médias comme celui que vous venez de citer, mais hélas, quantité d'autres, qui sont dans, du matin jusqu'au soir, soit par une espèce d'ironie sinistre qui se fait passer pour de l'humour, soit par des informations dont les journalistes en réalité sont devenus des maîtres penseurs, des directeurs de conscience, tous penchant du même côté, à savoir de gauche d'une part, et de l'autre on a la critique de ces nouveaux médias qui se prennent pour Fox News, certaines télévisions, je ne vais pas citer, mais
et une radio, vous n'avez pas cité, mais vous citez CNews, alors dites-le.
Voilà, bah, CNews et puis aussi Sud Radio. On a là affaire à des gens qui se prennent pour Fox News et donc on a un débat politique qui est totalement hystérisé et au milieu, les gens qui représenteraient le cercle de la raison, si vous voulez, qui sont majoritaires dans l'opinion, on le voit bien à chaque élection, eux n'ont quasiment plus de médias sur lesquels ils puissent, à partir desquels ils puissent s'informer. Et c'est un problème vraiment grave. Mais tout à l'heure, vous m'avez tendu une perche et je n'ai pas pu la saisir quand vous avez cité Kołakowski. Et vous allez voir que je vais vous citer un extrait de Kołakowski qui nous ramène exactement dans le sujet que nous évoquions à l'instant. C'est celui que Mediapart essaye d'agiter en faisant croire que le régime macronien est un régime totalitaire, autoritaire, poutinien ou erdoganien. Kołakowski, dans un texte magnifique, écrivait « On ne peut pas être sceptique au point de ne pas voir la différence entre le scepticisme et le fanatisme. L'universalisme culturel tombe exactement dans cette même difficulté. Il se nie s'il est généreux au point de méconnaître la différence entre l'universalisme et l'exclusivisme, entre la tolérance et l'intolérance, entre soi-même et la barbarie. Il se nie si, pour ne pas tomber dans la tentation de la barbarie, il donne aux autres le droit d'être barbare. » Et je pense qu'aujourd'hui, à travers les politiques de l'identité, à travers le multiculturalisme, à travers le relativisme que Macron, entre parenthèses, ne cesse de combattre, ce qu'il appelle parfois le scepticisme ou le nihilisme, nous avons effectivement à faire face à la montée dans notre société de cet écartèlement social, de ce qu'il appelle aussi le séparatisme. C'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus de communautés s'organisent de manière conflictuelle.
Non, il n'y en a qu'une.
Comment ?
C'est pas vrai. Il n'y a pas de communauté qui s'organise de façon conflictuelle. Il y a un problème de séparatisme d'une communauté. Non, quand même, là, soyons honnêtes, Brice Couturier. C'est pas
d'accord.
Vrai. Le séparatisme. Bon, d'accord. À continuer, pardon.
Oui, je disais, il y a la tentation chez une certaine gauche qui n'est pas celle de Laurent Geoffrin, je dois dire entre parenthèses. On a bien vu qu'au sein de Libération, il y avait une lutte de tendance forcenée entre la gauche républicaine, universaliste et laïque que représente et incarne Laurent Geoffrin aujourd'hui, et une autre gauche qui est communautariste, qui est tolérante de manière extravagante envers une idéologie moyenâgeuse, patriarcale, antiféministe, homophobe, et qui bizarrement recueille les suffrages et le soutien implicite de toute une partie de la gauche intellectuelle, universitaire et médiatique. Et là, on a vraiment affaire à un problème grave. C'est le problème de notre temps. Il est autrement plus grave et plus important et plus sérieux que le vieux clivage droite-gauche qu'il faudrait vraiment laisser derrière soi.
Laurent Geoffrin.
Alors, parce que la question initiale, c'était sur la pétition, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon. Enfin, c'est sur ces deux projets de loi, sécurité globale et séparatisme. Moi, je suis pas d'accord avec la pétition, en fait, parce que autant sur la question de la sécurité globale, il y a au moins un article, sinon deux ou trois, qui sont très contestables. Celui qui organise l'omniprésence des drones, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et il y a des dispositions qui portent sur les pouvoirs de la sécurité privée, qui sont également contestables. Et puis il y a ce fameux article 24 qui est d'une maladresse incroyable et qui vaut mieux retirer rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui va se faire. Par contre, sur le séparatisme, non, moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que il y a un danger islamiste en France, il faut le dire, il faut prendre des mesures. Si on lit, par exemple, le livre de Monsieur Aubin sur les atteintes à la laïcité dans le système scolaire, on est un peu effrayé, un peu beaucoup même. Et d'ailleurs, ça a culminé avec l'assassinat barbare de Samuel Paty. On ne peut pas dire que les gens qui s'organisent pour lutter contre ces factions minoritaires, mais extrêmement virulentes, que sont l'islamisme radical, que sont les gens de l'islamisme radical et les pires, ceux du terrorisme, on ne peut pas dire que c'est une loi liberticide. C'est un peu normal de dissoudre des associations qui passent leur temps à faire la propagande pour une version dictatoriale de la religion. Enfin, c'est le Front populaire qui est le premier dissous les ligues fascistes. Donc là, il y a plus de ligues fascistes, mais il y a des ligues islamistes. Quand on les dissolve, ça ne me choque en aucune manière. Au contraire, on aurait même dû le faire plus tôt.
Très bien.
Et la gauche, la laïcité, c'est quand même la gauche qui l'a inventée à la fin des fins. Et je comprends pas, enfin je comprends pas, je comprends très bien, mais je suis en désaccord total avec ceux qui disent « Oui, mais comprenez, la laïcité aujourd'hui, c'est une hypocrisie, ou c'est trop autoritaire, etc. » Mais non, c'est nous qui avons inventé ça, on va pas l'abandonner, c'est une bêtise. On peut en discuter, la manière dont on l'applique, etc., très bien. Mais c'est un des points fondamentaux du patrimoine idéologique de la gauche, donc il faut le faire fructifier.
Alors, très bien. Alors, simplement, il me semble là-dessus que Emmanuel Macron a vraiment beaucoup changé. Quand il était candidat, il disait « Si le communautarisme, notamment religieux, a prospéré, c'est bien sur les ruines de nos politiques économiques et sociales. La société statutaire sans perspective de mobilité a créé du désespoir social. » Donc, c'était une vision purement économique du monde. Il y a un problème économique et social, on va le résoudre par l'économie. On va le résoudre par l'ubérisation de la société, la mobilité. Il a bien été amené à se rendre compte que les choses n'étaient pas si simples que le refus d'une certaine de la France, de ses valeurs, de ses principes, de sa culture, s'enracinait ailleurs. Et j'ajoute qu'il s'oppose, vous le dites, au multiculturalisme Prise-Couturier, mais enfin, c'est Emmanuel Macron qui a dit pendant sa campagne, il n'y a pas de culture française, c'est Emmanuel Macron qui a dit, l'art français, je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Alors c'est vrai, ce sont souvent les livres qui nous ouvrent les yeux, je pense qu'il aurait dû lire, on aurait dû lui conseiller de lire Jean Clair et André Chastel. Et peut-être aurais-tu le vu, c'est un Français qui échappait à son regard, Brice Couturier.
Oui. Personnellement, j'étais très choqué quand il a fait ce genre de déclaration, elle ne me plaisait pas. C'est vrai qu'il y a eu une ambiguïté initiale du macronisme sur ces questions, dans la mesure où c'est effectivement un libéral à l'anglo-saxonne, on pouvait le soupçonner d'avoir des tendances communautaristes. Et c'est vrai qu'il y a eu une ambiguïté dans les deux premières années du quinquennat, on se demandait de quel côté il allait pencher. Je pense que depuis quelque temps, la façon dont il penche est assez claire. Laurent Geoffrin se félicite que Baraka City et le CCIF soient enfin dissous, mais que François Hollande ne l'a-t-il pas fait plus tôt ? Que Nicolas Sarkozy ne l'a-t-il pas fait plus tôt, lui qui se rendait au congrès de l'UOIF en disant qu'il était un ami, c'est-à-dire les frères musulmans. Donc il y a eu une complaisance de la totalité de la classe politique vis-à-vis d'un islamisme qui menace très sérieusement d'une sécession une partie de la population, qui embrigade une partie de nos concitoyens musulmans pour essayer d'en faire une masse politique et qui terrorise en réalité une bonne partie de nos concitoyens musulmans dans ce but. Là, nous avons affaire à quelqu'un qui fait preuve d'autorité, parce qu'il faut comprendre que la nouveauté, à mon avis, c'est que face à cette crise du Covid et quelques autres, comme la montée des incivilités et des violences dans notre pays, nous avons affaire à une forte demande d'autorité, à une forte demande, comment dire, de reprendre le contrôle. On le voit bien dans le sondage qui a été publié il y a quelques semaines par la Fondation Jean Jaurès, 88% des sondés répondent oui à la question, y a-t-il une crise de l'autorité en France, faut-il rétablir l'autorité ? Donc là, je pense que Macron a répondu, comme il le fait souvent, à cette demande d'ordre et d'autorité, et qu'il l'assume pleinement. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, la gauche s'imagine que c'est en le traitant d'autoritaire et de dictateur qu'elle va faire revenir les électeurs vers elle. Elle se trompe lourdement en cette matière. La demande d'autorité est très sérieuse, elle est très fondée d'ailleurs. Alors, et là, on a affaire effectivement à un président qui est à la fois libéral et autoritaire, n'en déplaise à une partie de la gauche.
Mais une partie de la gauche qui ne semble pas justement être tout à fait la gauche de Laurent Geoffrin, puisque Laurent Geoffrin, vous venez de le dire, vous approuvez la loi sur les séparatismes, et je l'ai dit en commençant, vous êtes parti pour de nouvelles aventures. Vous avez quitté Libération, oui, après plusieurs années de bons et très loyaux services. Vous avez fondé un mouvement, une nouvelle offre politique pour représenter une gauche qui n'est pas la gauche multiculturaliste, la gauche américanisée. Alors je voudrais savoir quelle est cette gauche, en quoi se différencie-t-elle par exemple de Place Publique, et pourquoi, petite question un peu taquine, avoir écrit Les Engagés en écriture inclusive, parce que vous vous réclamez justement d'une grande tradition de gauche, l'écriture inclusive aurait fait hurler de rire aussi bien Jaurès que Léon Blum ou que François Mitterrand, mais aussi Simone de Beauvoir ou Germaine Tillon. Alors voilà, j'attends toutes ces réponses, Laurent Geoffrin.
Alors le mouvement, c'est un mouvement qui a pour but de renouveler la doctrine, les propositions de la philosophie social-démocrate, réformiste, de la gauche républicaine qui veut mettre en œuvre un vaste programme de réforme qui tendra à améliorer la société française, la rendre plus solidaire et plus démocratique. Alors je peux y revenir. Ensuite, mon mouvement a un deuxième but, c'est de contribuer à unifier cette partie du paysage politique qui se situe, plus exactement, qui va des Verts jusqu'à Macron. Pas jusqu'à Macron lui-même, mais jusqu'aux macroniens qui sont déçus, manifestement, du cours qu'a pris le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est ça. Et le raisonnement, c'est que sans renouveler cette partie-là du paysage politique, et sans l'unifier, il n'y a pas de victoire possible pour la gauche. Ça ne s'est jamais vu. C'est-à-dire que c'est jamais la partie la plus radicale qui gagne. C'est toujours la partie réformiste. Oui, c'est la partie réformiste qui fait les réformes, comme son nom l'indique, et à qui on doit un nombre considérable d'acquis sociaux qui sont aujourd'hui considérés par tous les Français comme des choses intangibles.
Donc oui,
c'est ce programme-là qu'on veut élaborer et ensuite mettre en œuvre grâce à une victoire électorale en 2022. Je pense que la gauche peut gagner en 2022, à condition qu'elle se renouvelle et qu'elle rétablisse son pôle réformiste pour ensuite avoir une stratégie unitaire.
Oui, mais
voilà mon raisonnement.
Pour rétablir ce pôle réformiste, vous devez mener un combat à gauche contre la gauche que vous dites radicale, que l'on peut dire aussi multiculturaliste, influencée par ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur les campus. Et vous dites Macron. Vous dites certes les macroniens qui ont quitté Macron. Ben, les macroniens qui ont quitté Macron, c'est quand même notamment Aurélien Taché. Et Aurélien Taché a quitté Macron du fait précisément qu'il est lui-même multiculturaliste. Il est allé jusqu'à légitimer la polygamie. Il est revenu sur ces déclarations, bien entendu, mais quand même, ça montre très bien que ce qui heurte ces anciens macroniens, c'est précisément la posture autoritaire de Macron et sa volonté de combattre le séparatisme, la fracture française, comme dit Gilles Kepel. Donc, est-ce que vous croyez pouvoir mener victorieusement cette bataille à gauche contre une partie de la gauche de plus en plus importante ou en tout cas éloquente, Laurent Geoffrin?
Il y a deux choses. Moi, je défends les thèses universalistes, et donc je ne serai rien là-dessus. Mais évidemment, si on fait une discussion philosophique à gauche, on n'arrivera à rien. C'est vrai qu'on ne se mettra pas d'accord sur la définition, je crois, de la laïcité ou sur le multiculturalisme. Non, c'est vrai, ça. Ça a toujours été vrai à gauche. Avec les communistes, il était impossible de se mettre d'accord sur la société ultime que nous souhaitions, puisque eux voulaient une dictature prolétarienne et les socialistes voulaient une démocratie républicaine. Donc, il y avait un désaccord total. Mais ils se sont mis d'accord néanmoins à l'époque sur un programme commun. Moi, je pense que dès qu'on discute de propositions concrètes, la discussion change de nature. Je vais prendre l'exemple. On dit, il y a des gens qui sont, Macron a dit, il y a des gens qui sont assignés à résidence, par exemple, dans les cités ou dans les banlieues françaises, qui ne peuvent pas sortir de leur milieu d'origine, il n'y a pas d'égalité des chances, ils sont enfermés dans leur difficulté initiale, et c'est un peu la même chose pour ces gens qui sont appelés les gilets jaunes. Bon, alors les multiculturalistes vont dire, bah, vous voyez, ça vous prouve que la société est raciste, etc., donc on va commencer à discuter, est-ce que la société est raciste ou pas, etc., mais on n'en sortira jamais. Par contre, si on dit, voilà, écoutez, ce qui serait normal, compte tenu de la promesse républicaine, c'est d'organiser concrètement des procédures et des passerelles qui permettent aux classes populaires, au sens large, pas du tout sur une base ethnique, mais sur une base sociale, de pénétrer la classe moyenne et les élites. Et qu'on mette en place toutes sortes de mécanismes, il y a toute une batterie, c'est assez simple à énoncer, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, ça existe déjà d'ailleurs, ça se fait, de manière à ce que la classe dirigeante française soit mixte. Je ne dis pas mixte racialement, je dis mixte socialement. Et la classe moyenne, pareil. À ce moment-là, la promesse républicaine parviendra forcément mieux, on peut l'espérer en tout cas, dans ces quartiers relégués ou dans ces zones rurales oubliées. Et l'idée de l'égalité des chances, qui est une idée libérale aussi, seulement les libéraux la mettent jamais vraiment en pratique. Parce qu'ils n'aiment pas l'intervention sociale, étatique, dans les mécanismes de sélection sociale. Mais moi, je suis pour l'intervention de l'État et de la loi pour favoriser la promotion sociale de tout le monde, et donc des classes populaires au premier chef qui sont les plus nombreuses. Et donc, voilà, ça c'était. Et à ce moment-là, les électeurs de la gauche radicale, ils auront le choix entre dire, bon, bah, écoutez, vaut mieux à la droite, hein, on n'est pas d'accord avec ça, ou bien on pense qu'effectivement, c'est pas tout ce qu'on veut, mais au moins là-dessus, c'est quand même un progrès. Et donc, ils voteront pour le candidat ou la candidate qui représentera cette gauche de la réforme.
Que pensez-vous de cette proposition, Brice Couturier ?
Écoutez, je vois les sondages. Je vois que l'ensemble des forces de gauche aujourd'hui dans les sondages représentent entre 25 et 27% des voix. Certes, alors si on prend d'une part la France insoumise, donc gauche radicale, la gauche réformiste, celle que Laurent Geoffrin essaye de rassembler, et la gauche écologiste, tout ça, ça fait 26 à 27% des voix. Il me paraîtrait à moi extrêmement dangereux d'avoir un gouvernement qui ne serait appuyé que sur une partie de ces 25 à 27% d'électeurs. On reproche à Macron d'avoir mal été élu. C'est possible. C'est possible qu'il a été mal élu, mais il vaut mieux avoir un centre mal élu qu'une gauche ou une droite mal élue. Parce que ça provoquerait, évidemment, quand on voit déjà l'état de tension extraordinaire de la vie politique française et encore une fois sa polarisation, imaginez ce que serait le pays s'il y avait un gouvernement tout à fait à gauche ou tout à fait à droite, extraordinairement minoritaires dans l'opinion. De ce point de vue-là, il vaut mieux mon radical centrism parce que finalement, ça provoque tout de même moins de colère sociale que la droite ou la gauche au pouvoir. Donc moi, je ne souhaite pas que ni la droite ni la gauche ne reviennent au pouvoir dans l'état actuel des choses, en tous les cas.
Alors, Laurent Geoffrin, vous aurez le mot de la conclusion.
Moi, je crois que cette victoire de la gauche est possible. C'est vrai qu'elle est très minoritaire aujourd'hui, mais il y a tout un électorat qui est passé chez Macron et qui est déçu, d'abord. Et deuxièmement, il faut que la gauche retrouve le chemin du dialogue, enfin de l'écoute avec les classes populaires. C'est quand même incroyable que on ait une gauche essentiellement bobo. C'est totalement aberrant du point de vue historique. La gauche, elle est là pour représenter les gens les plus pauvres, ou les gens défavorisés, ou les gens victimes d'injustice. Et donc, il faut rétablir ce dialogue. Et c'est pour ça qu'il faut affronter clairement tous les défis futurs, y compris l'immigration, y compris la sécurité, non pas pour rallier les positions de la droite, mais en tout cas pour proposer une stratégie dans ces domaines-là. Et puis, il faut un discours social précis et crédible et audacieux. Il faut expliquer comment on va mettre en œuvre la transition écologique, qui doit être encadrée par la question sociale. Et puis, il y a une crise démocratique qu'on connaît tous et qu'il faut essayer de régler en organisant une plus grande participation des citoyens à la marche des affaires.
Alors,
et ils l'ont exprimé au moment des Gilets jaunes de manière très claire. Il faut écouter cette voix-là.
Justement, écoutez les Gilets jaunes. Il y a un clivage aujourd'hui entre les classes populaires et les quartiers populaires. Ça, c'est absolument clair. Le mouvement des Gilets jaunes, notamment, l'a démontré. On ne nous voit pas, nous sommes la France périphérique, nous mettons un gilet phosphorescent pour qu'enfin on nous regarde. Il n'y a pas que les quartiers et les bobos. Mais justement, ce clivage quartier populaire, classe populaire, qu'est-ce que la gauche peut faire pour y remédier? D'autant plus que on a eu une gauche Terra Nova qui a dit le peuple on s'en fout, c'est des racistes, et la gauche américaine, avec notamment la campagne il y a 4 ans de Hillary Clinton, le paquet de déplorables, était sur la même position. Alors qu'est-ce que, et c'est d'où le succès relatif, enfin absolu en 2016 et relatif aujourd'hui, de Donald Trump. Qu'est-ce que peut faire la gauche en deux mots, Laurent Geoffrin, pour remédier ce qui
Donald Trump a été battu quand même. Hein.
Oui, d'accord, mais 17 nettement. Millions de voix, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que
il est battu sans discussion.
Non, mais une grande partie du
beaucoup
peuple.
Plus de voix et il a beaucoup plus.
Oui,
de...
mais les voix qu'il a, ce sont pas les voix des riches. C'est les voix d'une partie du peuple. Voilà, ouais, c'est ça que je veux dire.
C'est plus compliqué. Parce que justement, pourquoi les démocrates ont gagné? C'est parce qu'ils ont reconquis une partie de l'électorat de ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire les états industriels malmenés par la mondialisation. Et là, ils ont repris des voix, parce qu'ils ont tenu un discours social aussi.
C'est vrai.
À mon avis, parler aux gens pauvres, il faut parler social. C'est pas très compliqué. Il faut parler social. Il faut dire, écoutez, les salaires, mais ils sont pas suffisants. Les protections, on ne cesse de les remettre en cause. Il faut les maintenir. Et il faut réindustrialiser le pays, quitte à d'ailleurs écorner le dogme du libre-échange. Là aussi, la gauche doit évoluer là-dessus. Et puis, il faut dire, écoutez, voilà, l'insécurité, ça se passe chez vous. C'est vrai, ça. L'insécurité, ça se passe pas là où j'habite moi. Moi, j'habite à Odéon, j'ai pas de problème d'insécurité. Mais évidemment, tous ceux qui habitent dans les cités, tous ceux qui ne sont pas du tout des délinquants d'ailleurs et qui demandent à ce que la police intervienne, ces gens-là sont victimes d'une inégalité, d'une injustice formidable. Donc, il faut une stratégie de sécurité qui soit respectueuse des libertés, évidemment, et qui soit républicaine, mais qui soit aussi crédible, c'est-à-dire qui disent, on va s'attacher à réduire sérieusement le taux de délinquance dans vos quartiers, alors, parce que c'est la double peine. Non seulement vous avez des conditions sociales d'existence qui sont extrêmement difficiles, mais en plus, vous avez peur quand vous rentrez chez vous le soir. Donc,
bon, bah, possible, écoutez, ça. Merci beaucoup Laurent Geoffrin. Vous rendez séduisant votre offre politique, Je rappelle les titres de votre livre. Laurent Geoffrin, l'anti-Macron, lettre politique. Il est paru chez Stock. Brice Couturier, Macron, un président philosophe, aux éditions de l'Observatoire. Alors, un petit correctif avant le générique. Il y a deux semaines, lors de l'émission sur Paul Morand, Marc Lambron avait rangé Olivier Rollin parmi les écrivains que Paul Morand, justement, influençait. Or, Olivier Rollin me dit qu'il n'a jamais été un admirateur de cet écrivain mondain, courtisan, fanatiquement antisémite et collabo. Fin de citation. C'était donc la semaine prochaine. L'émission aura pour titre « Face à l'immigration » et mes invités seront Didier Lesky et François Gémen. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et François Connac. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.